Vous écoutez On lit pour vous.
31 mars, Journée nationale des langues autochtones. Un texte de la rédaction paru sur le site de Statistique Canada. Environ un autochtone sur huit, 237 420 personnes, a déclaré parler suffisamment bien l'une des 70 langues autochtones distinctes pour tenir une conversation en 2021, ce qui représente 10 750 personnes de moins qu'en 2016. Il s'agit de la première baisse observée depuis que des données comparables ont commencé à être recueillies en 1991. La baisse du nombre de locuteurs d'une langue autochtone s'explique par le fait que moins de personnes ont appris une langue autochtone durant l'enfance et l'ont conservée, ce que l'on appelle la langue maternelle. En 2021, 184 170 autochtones ont déclaré avoir une langue maternelle autochtone, ce qui représente 14 120 personnes de moins qu'en 2016. Les langues autochtones au Canada sont considérées comme menacées et plusieurs d'entre elles sont classées comme étant en danger. Selon la Commission de vérité et réconciliation, cette situation est le résultat des effets intergénérationnel du génocide culturel et des politiques coloniales discriminatoires, en particulier les pensionnats. Cependant, on observe aujourd'hui certains signes de revitalisation des langues, la proportion d'Autochtones ayant déclaré apprendre une langue autochtone en tant que deuxième langue est passé de 24,8% en 2016 à 27,7% en 2021. Les deux tiers des membres des Premières Nations qui parlent une langue autochtone vivent dans une réserve. Plus des deux tiers, 67,8%, des 183 790 membres des Premières Nations, ayant déclaré pouvoir parler une langue autochtone, vivaient dans une réserve en 2021. Les membres des Premières Nations vivant dans les réserves, 39,8%, étaient presque cinq fois plus susceptibles de parler une langue autochtone que ceux vivant hors réserve, 8,1%. L'Inuit, Nunangat, est l'endroit où se trouve la vaste majorité des locuteurs de l'Inuktuk. L'Inuit Nunangat, la patrie des Inuits au Canada, comprend quatre régions. Le Nunat Siavut, Labrador, le Nunavik, nord du Québec, le Nunavut, et la région désignée des Inuvialuit, territoire du Nord-Ouest. L'Inuit Nunangat est l'endroit où se trouvent plus des deux tiers, 69%, des Inuits et la grande majorité, 94,3%, des locuteurs de l'Inuktuk. L'Inuktuk, qui signifie « langue inuite », est le terme qui englobe tous les dialectes de la langue inuit, tels que l'Inuktitut, l'Inuinnaktun et l'Inuvialuktun. Les langues autochtones sont également parlées dans les grandes villes. Si les langues autochtones sont le plus souvent parlées dans les réserves et dans le nord, elles le sont aussi dans les grandes villes. En 2021, 14 villes comptaient plus de 1000 habitants parlant une langue autochtone. Winnipeg comptait la plus grande communauté de personnes parlant une langue autochtone et il s'agissait surtout de membres des Premières Nations, 4710. Edmonton comptait le plus grand nombre de Métis parlant une langue autochtone, 620. Ottawa-Gatineau comptait la plus grande population d'Inuit pouvant parler une langue autochtone, 600, suivie de Montréal, 360. Signe de revitalisation des langues autochtones au Canada. Bien que le nombre de locuteurs d'une langue autochtone ait diminué de 4,3% par rapport à 2016, on observe certains signes de revitalisation des langues et de leur transmission d'une génération à l'autre. Dans le Canada atlantique, les enfants des Premières Nations de 14 ans et moins étaient plus susceptibles de parler une langue autochtone, 14%, que les adultes des Premières Nations de 65 ans et plus, 12,3%, en 2021. Le Mi'kmaq était la langue autochtone la plus parlée chez les membres des Premières Nations au Canada atlantique en 2021, et elle comptait 8195 locuteurs, en hausse de 5,9% par rapport à 2016. Au Québec, les enfants des Premières Nations de 14 ans et moins, 39,4%, étaient presque trois fois plus susceptibles de parler une langue autochtone que les adultes des Premières Nations de 65 ans et plus, 13,4%. Un peu plus de deux membres des Premières Nations de l'Ontario sur cinq, 40,7%, ou 10 895 personnes, qui parlaient une langue autochtone en 2021, l'ont apprise comme langue seconde, ce qui représente une hausse de 18,9% par rapport à 2016, et le rythme de croissance le plus rapide ayant été observé parmi les locuteurs d'une langue seconde à l'échelle nationale. La langue pied-noir a connu la croissance la plus rapide parmi les langues des Premières Nations dans les provinces des Prairies, augmentant de près d'un cinquième, plus de 18,9%, de 2016 à 2021, pour représenter 6450 locuteurs. Plusieurs langues des Premières Nations en danger, étant principalement parlées en Colombie-Britannique, ont connu une renaissance, comme le Aalt-Zouk, en hausse de 173,9% pour représenter 315 locuteurs, et le Aïsla, en hausse de 57,1% pour représenter 275 locuteurs. Le Michif est une langue spécifiquement métisse qui est issue d'une combinaison du cri, de l'ojibwé et du français, et qui comporte également des emprunts à l'anglais et à d'autres langues autochtones. En 2021, 1485 Métis ont déclaré pouvoir tenir une conversation en Michif, ce qui représente une hausse de 460 locuteurs ou une progression de 44,9% comparativement à 2016. C'était 31 mars, Journée nationale des langues autochtones. Un texte de la rédaction paru sur le site de Statistique Canada. Le PIPT plaide en faveur d'une technologie communautaire pour la revitalisation des langues autochtones. Un texte de la rédaction paru le 26 novembre 2024 sur le site de l'UNESCO. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, DNUDPA, article 13, stipule que les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures leur histoire, leur langue, leur tradition orale, leur philosophie, leur système d'écriture et leur littérature. La préservation et la promotion des langues autochtones vont au-delà de la sauvegarde du patrimoine culturel. L'accès à l'éducation dans la langue maternelle et la participation à la vie publique en utilisant les langues autochtones sont des droits fondamentaux. Ces droits sont essentiels pour créer des sociétés inclusives et cohésives où le développement durable, la bonne intendance de l'environnement, la paix et la justice sociale peuvent prospérer. Madame Mary Ruth Mandel, vice-présidente du groupe de travail du programme Information pour tous et coprésidente de l'Australian Literacy and Numeracy Foundation, ALNF, souligne le rôle croissant de la technologie et de l'innovation numérique dans l'accès équitable au savoir. Ces outils sont essentiels pour documenter, transmettre et revivifier certaines des langues les plus menacées au monde. Le 15 octobre 2024, l'Australian Literacy and Numeracy Foundation a présenté un exposé convaincant lors de la conférence South by Southwest Sydney Innovation, explorant la manière dont les nouvelles technologies peuvent favoriser la revitalisation, le maintien et l'enseignement des langues autochtones par la communauté. Historiquement, les technologies documentant les langues aborigènes et insulaires du détroit de Torres ont souvent exclu les locuteurs de ces langues du pilotage ou du bénéfice direct de ces processus. Cependant, le professeur Tom Calma, AO, membre du PIPT et coprésident de l'ALNF, souligne que les progrès des technologies accessibles sont en train de transformer cette dynamique. Les communautés ont désormais un plus grand contrôle sur leur langue, ce qui favorise des résultats positifs significatifs dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la cohésion sociale. Le professeur Calma préconise d'intégrer une philosophie axée sur la communauté au cœur des efforts de revitalisation des langues autochtones. En s'assurant que les aînés et les communautés autochtones dirigent ces initiatives, les outils numériques peuvent efficacement enseigner, apprendre et partager les langues autochtones avec les générations futures. La plateforme Living First Language, LFLP, développée par l'ALNF, et utilisée dans 17 communautés linguistiques autochtones à travers l'Australie, illustre cette approche. En tant qu'application multimédia multiplateforme, LFLP donne aux locuteurs des outils d'éducation pour lire, écrire et enseigner dans leur langue maternelle. La plateforme comble les fossés culturels, promeut l'éducation et remet les langues autochtones entre les mains des membres de la communauté, garantissant ainsi leur héritage pour les générations futures. Plus qu'un outil de documentation, LFLP encourage l'engagement quotidien avec les connaissances, la culture et les liens qui sont ancrées dans les mots, les phrases et les histoires. En facilitant les liens intergénérationnels, elle transforme la numérisation en un processus dynamique et vivant où les traditions s'épanouissent dans les environnements numériques. Madame Glenise Coulthard, AM, est née autochtone et membre du conseil d'administration, souligne que la langue est intrinsèquement relationnelle. Les innovations numériques doivent être considérées sous cet angle comme des outils permettant de célébrer la culture, de renforcer les liens et de favoriser la collaboration. Le potentiel de la technologie communautaire démontre que les langues autochtones peuvent s'épanouir lorsqu'on donne la possibilité aux communautés de gérer leur patrimoine linguistique et culturel. C'était le PIPT plaide en faveur d'une technologie communautaire pour la revitalisation des langues autochtones. Un texte de la rédaction paru le 26 novembre 2024 sur le site de l'UNESCO. Saskatoon, au cœur de la lutte pour la préservation des langues autochtones. Un texte de Garo Jomoyan et Campbell Stevenson, paru le 13 février 2025 sur Ici Saskatchewan. Des centaines de participants se sont réunis les 11 et 12 février au centre du Prairieland Park à Saskatoon à l'occasion du 19e rassemblement des gardiens de la langue. Cet événement annuel, initié en 2006 par le Centre culturel autochtone de la Saskatchewan, Saskatchewan Indigenous Cultural Center, vise à soutenir les efforts de revitalisation des langues autochtones et à sensibiliser le public à leur préservation. Selon les données de Statistique Canada, les langues autochtones connaissent un déclin constant, notamment en raison des politiques d'assimilation et du système des pensionnats pour autochtones. Le recensement de 2021 indique qu'en Saskatchewan, près de 23 000 personnes parlent le cri, suivi du déné, avec un peu plus de 7 000 locuteurs. Lani Nisnapemowin Solto est parlée par environ 1230 personnes, alors que le Dakota ne compte plus que 375 locuteurs. Ces chiffres sont en baisse par rapport au recensement de 2016, le nombre de locuteurs Dakota ayant chuté de 8,5%, tandis que celui de locuteurs de Cree et de Dene a diminué de plus de 7%. Transmettre les langues par l'expérience et l'immersion. Le 19e rassemblement des gardiens de la langue a commencé le 11 février par le biais d'une conférence sur les origines de la langue Cree, animée par le Dr. Maurice Cook, directeur du programme de formation des enseignants autochtones du nord de la Saskatchewan. Northern Saskatchewan Indigenous Teacher Education Program. Monsieur Cook insiste sur l'importance des programmes immersifs pour inciter les jeunes à apprendre et à préserver leur langue. Selon lui, il est possible de renouer avec sa langue en s'impliquant dans les activités culturelles et communautaires. En participant à ces camps culturels, en écoutant les anciens, écorcher un animal, les participants passent en revue les parties de l'animal. C'est expérimental. Ils utilisent leurs mains. Ils apprennent beaucoup plus vite, explique-t-il. Ajoutant, « Parler avec les anciens. Parler avec les gens. Même de leur costume de powwow. » Qu'est-ce que c'est? Nikihi Wayanak? Les plumes? Commencez à apprendre et à vous engager. La musique et la discipline, des clés pour l'apprentissage. Durant ces deux jours, de nombreux ateliers ont été consacrés aux diverses langues autochtones parlées en Saskatchewan, notamment l'Anisinapemowin, Solto, et le Neiyawewin, Cree, ainsi que les langues Lakota, Nakota et Dakota. Jonas Thompson, membre de la Première Nation Nakoda, Carry the Kettle, en Saskatchewan, estime que la musique est un outil efficace pour revitaliser la langue Nakoda. Cette langue est aujourd'hui parlée par un très faible nombre de locuteurs. De nos jours, les enfants apprennent par la vue. Si nous pouvons nous appuyer un peu sur ce principe, nous pouvons les aider à comprendre les sons de la langue, indique M. Thompson. Mais pour que nos enfants apprennent, notre niveau de discipline doit être un peu plus élevé de nos jours. Mais nous devons faire ce que nous devons faire pour préserver le peu que nous avons. Jonas Thompson anime des ateliers de chant et de tambour pour initier les jeunes aux sonorités de la langue Nakoda. Selon lui, cette approche requiert une discipline rigoureuse, mais elle est essentielle à la préservation de la langue. Lorena Lynn Cote est une enseignante renommée de la langue Solto. Cette membre de la Première Nation Côté souligne, quant à elle, l'importance d'un apprentissage quotidien. Elle estime qu'il suffit de prononcer un mot par jour pour entretenir la vitalité de la langue. D'autres ateliers ont également mis en lumière des éléments culturels et linguistiques spécifiques, comme les récits traditionnels d'aînés et les caractères qui les composent. Le prochain rassemblement des gardiens de la langue est prévu les 4 et 5 novembre prochains. C'était Saskatoon au cœur de la lutte pour la préservation des langues autochtones. Un texte de Garo Jomoyan et Campbell Stevenson, paru le 13 février 2025 sur Ici Saskatchewan.
Petit guide à l'usage des nouveaux grands-parents, un texte commandité paru le 2 mars 2024 dans la presse. Être grand-parent est l'une des expériences les plus riches et les plus gratifiantes qu'une personne puisse vivre. Le secret pour profiter pleinement de cette précieuse relation? Trouver un équilibre entre implication et respect des limites. Voici cette règle d'or à garder en tête pour aborder ce nouveau rôle avec sagesse. 1. Trouver sa place. Tout grand-parent aimant tient profondément au bien-être de ses petits-enfants. Or, offrir votre aide sans s'imposer s'avère un équilibre délicat à trouver. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à trouver votre place tout en respectant le rôle des parents. Accepter de ne pas être indispensable en permanence permet de préserver une relation saine et équilibrée, autant avec les parents qu'avec les petits-enfants. 2. Conseiller avec modération. Après avoir éduqué, consolé, dorloté et vu grandir vos propres enfants, il peut être tentant de les inonder de conseils quand ils deviennent à leur tour parents. Aussi bien intentionnés soient-ils, les flots incessants de commentaires et de conseils peuvent devenir étourdissants. Le mot d'ordre quand il s'agit de transmettre votre précieux savoir, modération. 3. Tissez des liens forts. Le meilleur cadeau que vous puissiez faire à vos petits-enfants ne nécessite ni papier d'emballage, ni rubans multicolores. Ils se fabriquent au gré des moments partagés qui favorisent la complicité. Leur offrir du temps de qualité est sans doute ce qu'il y a de plus précieux. Jouer à la cachette, lire des histoires, bricoler, aller au parc, créer des rituels, mieux vaut bâtir des souvenirs mémorables que de contribuer à encombrer la salle de jeu. 4. Fixer ses limites. Vous êtes le grand-parent attitré au gardiennage. Être un grand-parent dévoué ne doit pas se faire au détriment de son propre bien-être. Apprendre à dire non est important. Si vous n'avez ni l'énergie, ni le temps, ni l'envie de garder votre petit-fils adoré en pleine crise dès 2 ans, vous avez le droit de décliner la demande. Cela ne fait pas de vous un mauvais grand-parent pour autant. 5. Communiquer avec les parents. Parentalité positive, panda, hélicoptère, chasse-neige. Pas facile de suivre le fil avec les nouvelles approches éducatives. Et que dire de la diversification alimentaire menée par l'enfant, mieux connu sous l'acronyme DME? Que vous soyez d'accord ou non avec les choix des parents, il est essentiel d'entretenir un dialogue ouvert et bienveillant avec eux, en tenant compte de leurs attentes et en respectant les règles établies. Vous évitez ainsi les malentendus et les frictions. 6. Mettre sa rivalité de côté. L'une peut avoir plus de moyens, l'autre plus de temps. L'un peut vivre à quelques coins de rue de ses petits-enfants, l'autre à des centaines de kilomètres. Peu importe la situation, rien ne sert de vous comparer aux autres grands-parents. Cela ne fera qu'entretenir une rivalité malsaine. Après tout, l'amour, ça ne se divise pas, ça se multiplie. Sans oublier que ça prend un village et plusieurs grands-parents pour élever un enfant. 7. Éviter le favoritisme. Il se peut que vous ayez une préférence pour l'un de vos petits-enfants. Cet enfant a peut-être un caractère plus doux que les autres. Ou peut-être vous fait-il penser à une personne que vous chérissez. Si tel est le cas, il est important d'en prendre conscience et de veiller à être équitable envers tous vos petits-enfants. C'était « Petit guide à l'usage des nouveaux grands-parents », un texte commandité, paru le 2 mars 2024 dans la presse.